Hey ho!
Le ciel propulsé, un peu plus de 6G.
Il vole
dans un dépotoir éloigné, devant l'ours et maléché. Des talbots. Sur les massifs églacés, sur les pentes enneigées, il glisse,
il glisse.
Bravant toutes les tempêtes ou sur les routes du Québec. Au volant de la Winnie Talbot, les gens qui croisent font des eh oh,
eh oh,
au Mont Talbot.
Oh, 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 oh,
tout est les plus grands des Talbots, que tout navigue sur les flots.
Radio Talbot est une présentation des Brasseurs Illimités et de la bière Simple Malt. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Oh yeah, on est là, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Ici Denis Talbot, je suis avec l'ineffable ce soir. Monsieur Ian Richards, qu'il est là. Comment ça va, mon Ian? Attends un peu, moi, ton micro, ça va aller bien.
Allô?
Bien. Hey, comment tu vas?
Je savais que t'avais m'invité et me couper le micro.
Ça fait longtemps que je vais te couper le micro.
Ben là, on est juste tous les deux. Ah non, c'est vrai, on a un invité.
On a un invité, mesdames et messieurs, effectivement.
Non, ça va très bien.
Oui, je suis content que tu sois là parce qu'il y a beaucoup de personnes hier qui voulaient avoir ton avis concernant le Metal Gear.
Je vais la donner gratuitement.
C'est vrai?
Ouais,
c'est comme ça, toi. Tu donnes, donnes.
Je donne, puis je n'entends rien en retour.
Et parlant de donner, aujourd'hui, j'ai reçu, monte les dons à l'écran, là, j'ai reçu cette belle petite boîte. Montre ça comme ça. Bon,
ça?
Ouais, c'est Disney Infinity. On va s'amuser avec ça, et bien sûr, on va vous en parler au cours des prochains jours. C'est intéressant comme petit gadget. Je sais que tu es un fan de cette série, Yann.
Oui, on s'amuse bien, moi, puis les enfants à la maison.
Quel kit que tu as, c'est celui-là?
Non, moi, j'ai pas acheté le 3.0 parce que le premier, c'était Disney Infinity. C'était la première fois qu'on sortait. C'était plus Marvel, il y avait Toy Story, Pirates des Caraïbes. Le deuxième, ça a été axé sur Marvel Super Heroes. Et le troisième, 3.0, c'est l'univers de Star Wars.
Intéressant. On va jouer avec ça. On va peut-être faire un playtest, bien sûr, histoire de vous donner nos impressions de ce qu'on pense de cette création, mesdames, messieurs. D'autre part, il est à San Francisco. Son nom, c'est M. Alain McKenna. Comment ça va, Alain?
Bonsoir, ça va bien, vous autres?
Oui, bonjour pour toi.
Oui, c'est ça qui arrive.
Un petit 3 heures de délai.
Un petit 3 heures tout petit. Ça a été une grosse conférence pour Apple et je pense que c'est une des bonnes conférences auxquelles on a eu le plaisir d'assister, Alain.
C'est peut-être pas apparent parce que les attentes sont toujours très élevées. Puis là, en tout cas, il y en a qui vont être déçus parce que bon, il n'y a peut-être pas eu les services de télé, attendez. Mais mine de rien, Apple vient de créer 2 App Store, un pour la télé puis un pour sa montre. Ça devrait relancer non seulement les produits d'Apple, mais aussi le créneau du jeu vidéo, entre autres, parce que c'est vraiment là où ça va jouer.
On va commencer justement par l'Apple TV, qui est en quelque sorte une console de jeu maintenant.
C'est rendu, oui, ça va au même niveau, pas au même niveau nécessairement qu'un Xbox ou qu'une PS4, mais peut-être plus qu'une Wii. C'est un appareil maintenant qui a, bon, une boutique d'applications qui va être accessible à partir de son téléviseur directement, sur laquelle on peut télécharger toutes sortes d'applications, mais surtout des jeux, ce qu'on voit là, dans la première vague d'applications. Il y a une télécommande qui a été transformée en un nouvel appareil avec un petit pavé tactile et des capteurs de mouvement qui permettent justement là, de transformer la télécommande en contrôleur de jeux vidéo. Et puis, grâce à la magie du Bluetooth 4, on peut aussi jumeler le contrôleur de son choix. Dans la démo, j'ai vu notamment un jeu style Rock Band. Il y avait une guitare sans fil, en plastique, avec laquelle on pouvait suivre des notes qui défilaient à l'écran. On peut imaginer tout de suite que ça va justement aller chatouiller là, Microsoft, Sony, Nintendo, ces grands joueurs-là, dans ce créneau-là, là, de la télé connectée.
Est-ce que tu as eu la chance d'y jouer un peu, de mettre la main sur les démos là-bas?
Oui, ben on a essayé, il y avait des petites cabines, là, on pouvait voir la télécommande fonctionne assez bien. Il y a une grosse fonction d'Apple TV qui ne sera pas apparente au début chez nous au Québec.
Okay.
C'est la commande de la recherche vocale par Siri. Siri, qui est la fameuse commande vocale du iPhone, qui est rendue un peu partout maintenant chez Apple, va faire son introduction comme outil de recherche universel. C'est-à-dire qu'on dit « Hey Siri, je cherche Radio Talbot », puis il va chercher dans toutes les applications pour trouver les plus récentes émissions de Radio Talbot. Le seul problème, ça ne fonctionnera pas en canadien-français ou en français-canadien pour commencer. Ça va être seulement en anglais ou en français-français. Alors, on va falloir prendre son meilleur accent de l'hexagone pour chercher des séries.
Bon, on a de la misère un petit peu avec la communication. Alain, tu sens en robot par moment. Il ne faudrait pas froncer trop les sourcils. Toi, tu es dans le sourcil, paraît-il.
On fait attention.
Parle-moi un peu du iPad. Ça a pris les gens par surprise parce que tout le monde pensait qu'on n'était pas pour parler du iPad. Même nos spécialistes à Apple ici hier ont dit non, ce ne sera pas cette année, ça va être plus tard. Et finalement, ils en ont parlé. Intéressant, ce gros iPad.
Gros iPad, axé sur les iPad Pro pour professionnels et productivité. C'est un outil de travail avant tout. Mm-hmm. Grand écran de 12,9 pouces. Écoute, honnêtement, ils vendent ça avec un clavier, un accessoire. Ça pourrait être un MacBook Air.
Oh, palais, là, c'est gelé, mon Alain. T'es gelé. La connexion sans fil, malheureusement, semble rusher un petit peu. Est-ce que tu es là, mon Alain?
Je suis bien désolé si ça ne fonctionne pas.
C'est marqué Internet Unstable de ton côté. T'es en sans fil, mon vieux, probablement. Donc, OK, ça semble revenu. Vas-y.
Ben, on est à la, ouais, San Francisco, les hôtels. Voilà. Mais l'iPad Pro est une belle machine, pour en revenir à ça, qui est le plus gros iPad, l'iPad le plus puissant jamais produit par Apple. C'est comme ça qu'il le présente. C'est un outil de travail. Il vient avec un pencil, donc un stylet, qui était un peu, en fait, qui a été décrié par Steve Jobs à l'époque comme un accessoire complètement inutile. Donc, on revient un petit peu sur nos paroles, mais c'est quand même un appareil, un accessoire, mais le stylet va super bien, extrêmement précis. C'était pas évident jusqu'à maintenant d'écrire sur iPad, là, c'est rendu un peu plus pratique, un peu plus naturel, disons. Ça va plaire aux designers, aux artistes qui aiment beaucoup gribouiller là, sur un peu n'importe quoi. Puis, ça vient avec un clavier aussi, justement, qui fait un étui de protection, un peu comme la Surface de Microsoft. Donc, dans ce créneau-là, on sent qu'il y a une certaine, en tout cas, il y a au moins un intérêt d'Apple et Microsoft, qui sont deux gros fabricants.
Mm-hmm.
Donc, on va voir dans les prochains mois.
Parle-moi un peu maintenant de... Attends un petit peu, on a perdu l'image. Ça va bien. Attends un peu. Parle-moi un petit peu de la fameuse montre maintenant. Qu'en est-il de cette montre-là? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle version?
La Watch, oui.
Est-ce qu'il y a une nouvelle version qui va être appelée à être développée prochainement? Est-ce qu'on a laissé présager ça, Alain?
Oui, ben, on n'a pas vraiment vu de matériel. Watch OS 2, le système, qui lui aussi devient ouvert là, aux applications des développeurs tiers, donc qui devrait ouvrir la voie à justement plein de nouveaux services sur le poignet.
Mm-hmm.
Le gros de ces applications-là sont des jeux. Je voulais c'est quoi un jeu sur une montre avec un écran d'un pouce et demi.
Oui, c'est assez particulier.
Ça ne paraît pas super évident, oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est strictement logiciel. Les mises à jour qui vont être le fun, ils nous ont fait des démonstrations d'applications très dans le secteur de la santé, de la mm-hmm. médecine, mais dans le jeu, ça devrait bien être.
Donc, le cœur de lancement, c'était surtout pour les téléphones. Le téléphone, le fameux 6, le 6S, le 6 Plus S également. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine, ce téléphone-là, selon toi?
C'est une belle mise à niveau. Il y a deux choses, les deux gros morceaux à retenir, parce que tout le reste est inchangé, même format, même prix. C'est l'appareil photo qui fait un bond à 12 mégapixels,
mm-hmm.
Qui n'était pas mauvais sur l'iPhone 6, puis là, qui est un petit peu meilleur, donc il devrait satisfaire la plupart des gens. L'iPhone, si je me rappelle bien, l'appareil photo le plus utilisé dans le monde.
Mm-hmm.
Donc, les gens qui s'en servent beaucoup vont apprécier la mise à niveau. La frontale aussi a droit à un nouveau flash, qui est dans le fond l'écran qui s'allume et qui s'ajuste à l'éclairage ambiant pour contraster un peu pour donner des selfies qui vont être un peu plus détaillées. Mm-hmm. Puis l'autre grosse affaire, c'est le 3D Touch, donc le touche 3D. Mm-hmm.
J'aime ça que le selfie est rendu un point de vente, tu sais, pour les téléphones. Là.
ben, c'est durable parce qu'on parlait, on pensait que ça allait disparaître l'année passée. Puis à chaque année, à chaque nouveau téléphone, ouais, on fait attention au mode selfie.
Moi, là, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de misère. Tu sais, on va niaiser là, une fois de temps en temps, mais... Quand je vois le nombre de photos des fois qui débarquent, les selfie sticks, les selfies, peu importe ce qu'ils vendent là-dessus, je me dis, hey, un moment donné. Ah, c'est vrai, je m'excuse, c'est ego portrait, n'est-ce pas?
Un ego portrait, cher ami.
Ego portrait en français. Je me force.
C'est bon, ça, Yann. Donc, un téléphone plus puissant, plus rapide, qui est, bon, il va se vendre sensiblement le même prix, finalement, là.
Oui, même prix que l'ancien modèle. L'ancien modèle, lui, est réduit d'à peu près 100 US. Il va falloir voir les détails en canadien. Ça n'a pas été publié encore. Le taux de change. Pourrait affecter un peu les prix, là, parce qu'on n'est pas au même stade qu'on était il y a un an. Mais attendez-vous à un prix similaire sur un contrat de 2 ans de entre 300 et 500 $ selon le modèle.
Mais le pavé haptique, c'est une belle innovation. Moi, je pensais que c'était pour être un gadget au début, mais effectivement, de sentir où sont les tuiles, de sentir la définition justement des pages, ça peut être un plus, ça, là.
Oui, ben la différence, parce que beaucoup de gens associent ça, ou en tout cas comparent ça à une fonction à peu près similaire sur Android.
Android, ouais.
La grosse différence, c'est que là, justement, il y a une rétroaction haptique. Donc, il y a une espèce de petite vibration qui se fait sentir quand on active les différents niveaux de pression de cette fonction-là, parce que justement, ça dépend comment fort on appuie sur l'écran pour justement réagir de différentes façons. On appuie normalement, ça fait ce que ça a toujours fait, ça lance l'application, ça ouvre le courriel, ça consulte le document, peu importe. Si on appuie, on garde le pouce appuyé ou le doigt appuyé sur, par exemple, un message texte, on voit un aperçu surgir du message texte. On appuie plus longuement, là, on rentre directement dans le message texte, on peut répondre. Puis, il y a d'autres fonctions si on bouge le doigt, si on se déplace sur l'écran. C'est assez le fun. Puis, justement, il y a une rétroaction physique là, qu'on sent dans la main quand on manipule l'appareil qui rend vraiment cette navigation-là beaucoup plus naturelle qu'elle l'était avant. C'est, bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est l'équivalent du clic droit sur un ordinateur personnel. C'est un peu ça. Mais ce sont des petits menus qui ont plein de raccourcis intéressants qui permettent aux gens qui évitent d'avoir à rebondir d'une application à l'autre tout le temps. Ça va être le fun de voir comment les applications, comment les développeurs vont intégrer ça dans leurs propres applications, mais déjà en partant sur les applications d'Apple, la plupart des grandes applications très populaires, là, Twitter, Facebook, tout ça, c'est déjà bien intégré.
Apple TV va marquer des points, je pense aussi. Sauf qu'on parle de désuétude contrôlée. Encore une fois, tous ceux qui ont acheté les Apple TV qui auraient pu peut-être se mettre à jour avec une mise à jour firmware, je ne sais pas, vont être obligés de se débarrasser de ça puis s'en procurer un autre finalement.
Ben, j'imagine l'Apple TV actuelle subit une baisse de prix. Elle était quelque chose comme 75 $, je pense, on devrait voir en canadien. Là.
Ouais.
Mais va résister encore. Probablement qu'il va y avoir une mise à niveau probablement incomplète du système. Pour les gens qui en ont déjà une, ça va passer au deuxième téléviseur dans la maison, j'imagine, parce que justement, il n'y aura pas les fonctions de jeux vidéo et de rétroaction aussi. Donc, oui,
ça programmer. Attends un petit peu, répète ça, Alain, parce que c'était comme un robot là, présentement. Répète-nous ça un peu. Qu'est-ce que tu as dit, monsieur?
C'est que l'Apple TV actuelle risque de devenir justement une espèce d'accessoire pour la deuxième télévision dans la maison.
Ouais.
Continue d'être vendu à un prix moindre. Mais il n'y aura pas les mêmes fonctions que le gros Apple TV. Comme, évidemment, comme on le dit à chaque fois, c'est une certaine obsolescence programmée. Là.
Ouais.
Les nouveaux produits sont attrayants, mais nécessitent qu'on se débarrasse de l'ancien. C'est un peu plate. Pour répondre à ça, que la plupart de leurs produits sont esclaves, c'est à vous de voir.
D'ailleurs, on s'est targué, on s'est vanté d'être une compagnie maintenant beaucoup plus verte aussi, des produits moins d'arsenic, moins de scie, moins de plomb, moins de toutes sortes de patentes. Qu'en est-il vraiment, penses-tu, Alain?
Ben, je sais pas où finissent. Tout dépend d'où finissent les appareils à la fin de leur vie. Est-ce que les gens les retournent chez les détaillants qui les recyclent? L'aluminium, le verre, tout ça est recyclable. Écoute, dans l'automobile, les choses sont recyclables à 80-85%. C'est juste qu'on prend pas nécessairement la peine de le faire à chaque fois. Mais en théorie, ils ont fait des gros progrès. C'est pas les pires dans le marché, ça c'est certain.
Maintenant, revenons au point fort de vente. Je suivais tes tweets aujourd'hui, puis tu disais, bon, ça y est, je pense qu'on a trouvé le iPhone 6S. Là. Ça tournait autour de ça. Tu n'étais pas le seul. Les gens disaient, oh, OK, voici des arguments de vente intéressants. Penses-tu que le iPhone 6 est le plus, là, le S Plus, est plus mature que le précédent? Est-ce qu'on est arrivé à un certain point de maturité pour le produit?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. En fait, ce qui apparaît de plus en plus apparent, c'est que l'édition S des iPhones, que ce soit le 5 ou le 6 ou même le 4, est toujours l'édition la mieux ficelée parce qu'on fait la grosse mise à jour, disons, mécanique avec une nouvelle génération, 4, 5, 6, ainsi de suite. Puis, on fait des ajustements avec la version S. On a évidemment changé beaucoup de choses dans l'iPhone 6S, point de vue mécanique et logiciel, mais on sent que ce sont des améliorations sur ce qu'était la première génération du 6, dans ce cas-ci. Puis, ça fait un produit qui est pas mal plus attrayant. Évidemment, le 6 par rapport au 5 était quand même un beau progrès. Puis, il faut penser, il faut réaliser aussi que, et je pense que c'est comme ça qu'Apple réfléchit, c'est que les gens qui achètent, par exemple, l'iPhone 6 n'ont pas nécessairement un 5S dans leur poche, mais avaient peut-être un 3GS ou un quelque chose d'un peu plus vieux, ou peut-être même à la limite un 4. Dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose. Les gens qui ont un 5C ou un 5S vont peut-être vouloir aller vers le 6S, mais les gens qui ont un 6 devraient être satisfaits. Tout ça étant dit, ça fait beaucoup de S dans une phrase.
Tu vois, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que mon téléphone, il y a 2 ans, j'ai eu un iPhone 5. Ouais. J'avais aucunement l'intention de changer au S ou au 6 ou au 6 Plus parce qu'il fonctionnait encore très bien. Et maintenant, il y a plusieurs applications, et je vais juste donner un exemple sur le jeu Metal Gear Solid, qui a comme son application
Companion.
Ouais. Et je peux pas jouer avec mon iPad, qui est de 3e génération, et je peux pas jouer avec mon téléphone, qui est un iPhone 5. Ça commence seulement avec le S. C'est comme si on oubliait le 5 complètement, puis on dit non maintenant. Tous nos services de base, ça va fonctionner avec le S. Mais le S, là, le 5S, il y a juste 2 ans, lui. Là.
Ouais, mais c'est trop vieux, ça, 2 ans.
Il y a 2 ans et demi. Je trouve ça un peu plate.
Le cycle de vie programmé dans la mobilité, dans les téléphones, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est 2 ans. Après, les contrats sont 2 ans, les programmes de financement sont 2 ans. Ça semble être le chiffre magique. Et je dis pas que c'est à l'avantage du consommateur, bien le contraire, là, mais c'est vraiment le modèle à accepter en ce moment joue tant vers cette tendance-là.
C'est juste que, tu sais, on chiale maintenant, tu sais, c'est parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle du Apple TV un peu. On chiale un peu que des fois, une console, exemple, la Xbox 360, ouais, mais elle a duré juste 7 ans, puis c'est 400, c'est 400$. Mais c'est comme acceptable que je vais changer mon téléphone cellulaire, qui est encore très bon, aux 2 ans en payant 300$ parce que Apple ont décidé que, le tien, il est plus à jour ou il est désuet. C'est que ça me bug un peu, ce côté-là.
Ben, c'est leur modèle d'affaires. C'est leur modèle d'affaires. Ils ont toujours fait ça. Ils arrivent à nous faire comprendre, à nous faire croire en fait que notre téléphone qui a 2 ans est plus bon.
Mais
ça
là, c'est
rendu,
c'est pas juste ça, c'est que c'est rendu que les applications qu'ils te vendent ne fonctionnent pas dessus. Bon. C'est la première fois depuis que j'ai des produits Apple, ça m'arrive où on me dit, puis je roule des applications là, qui sont beaucoup plus puissantes que ce que je voudrais faire avec.
Mais attention, là, ce qu'on va t'offrir maintenant, si ça ne tente pas de payer le gros prix, c'est d'embarquer sur une espèce de système de location. À combien ça coûte, Alain, cette histoire-là?
C'est aux États-Unis, c'est que je pense que c'est 32$ par mois.
Oui, c'est ça.
À vie.
J'aime le « à vie ».
Mais ça assure qu'on a toujours le dernier modèle d'iPhone. Évidemment, ça force une certaine loyauté à la marque, pas bien le choix. Mais ça casse aussi avec le modèle des contrats à forfait des fournisseurs sans fil. Donc, c'est un modèle qu'on n'a pas chez nous, mais qui pourrait. En fait, je pense que TELUS offre quelque chose de similaire, là, qui s'appelle le T-Up. Mais c'est innovateur, mais en même temps, ce que ça signifie, c'est que c'est ça. Il faut calculer que ça fait beaucoup de paiements par mois, là, 32$ pour le téléphone, plus
la bande passante, puis tout, puis tout.
Ouais. Ainsi de suite, c'est ça. Mm. Ça commence à faire des gros paiements. Pour un téléphone qui finalement est essentiellement un téléphone.
Parlons un peu de la fameuse caméra qui a été revampée. On a une nouvelle technologie. On a isolé les pixels de lumineux pour pas qu'il y ait de bavures lumineuses. Bon, page de vie. Lorsque j'ai animé le truc à la Place des Arts avec notre ami Wozniak, je vais prendre un selfie avec lui. Il dit, ben, regarde, mets ton téléphone de bord, puis c'est à toi de l'écran pour faire un... Il m'a regardé, il disait, oh non, you don't have that yet. Fait que lui, il a l'humeur, il l'avait déjà, cette affaire-là.
Il le savait.
Donc, aujourd'hui, ça a été annoncé officiellement, on va pouvoir se servir de l'écran principal comme d'une source de lumière.
Oui, ben, ça va probablement frapper l'imaginaire parce qu'Apple l'a fait, puis c'est un grand volume, mais il me semble que ça a déjà été fait sur d'autres plateformes aussi, d'utiliser l'écran comme un flash. Ce qu'Apple fait d'un peu différent, c'est que la caméra reconnaît le niveau de luminosité ambiante et la chaleur de la couleur, donc la teinte de jaune ou de bleu. Et ça juste en conséquence, donc, assure que la couleur, que le visage des gens aura pas l'air sorti d'une autre photo puis photoshopé directement dans l'image. Donc, il y a quand même un petit effort de plus. Mais c'est une bonne idée, cet écran. Écoute, c'est de la lumière, ça sert juste à ça. Puis quand on prend un selfie, c'est souvent mal éclairé, contre-jour, ainsi de suite. Donc, ça pourrait être une belle fonction.
Penses-tu que ce modèle de modèle haptique pour les téléphones va se transférer vers l'iPad éventuellement? Ce serait le step logique, me semble, le prochain
étape? Oui, on l'attendait. Moi, l'iPad Pro, je pensais qu'il allait nous annoncer ça sur cette tablette-là. Puis finalement, c'est pas là. Donc, ça risque de venir l'année prochaine. Une bonne raison pour lancer du nouveau iPad pour Apple.
Exactement. Vendre encore.
La roue continue de tourner, tu sais.
C'est fou. Donc, somme toute, qu'est-ce que tu retiens de ce lancement-là? Toi, qu'est-ce que qui t'a frappé le plus en tant que journaliste?
Ben, en fait, moi, je dirais, le mot en un mot, là, c'est enfin, parce que là, on ouvre les plateformes aux développeurs. Puis c'est ça qui fait la beauté des produits d'Apple au-delà de tout le reste. Parce que le design, bon, ça reste subjectif, puis tout ça. Les prix aussi, mais là, enfin, des applications vont être développées pour l'Apple TV par des tiers, vont être développées par des tiers pour l'Apple Watch. Donc, on s'en va vraiment vers un... C'est ça qui fait la beauté de ces plateformes-là. Et surtout d'Apple, parce que c'est ce qui les distingue d'Android, c'est que les premières applications sont lancées généralement sur iOS en premier, puis après sur des clés sur Android. Mm-hmm. Donc, fait que là, on va avoir des télés avec des applications tierces qui devraient être assez intéressantes. Puis, on verra, ça va peut-être insuffler un peu d'énergie dans la Watch aussi.
J'espère, en tout cas. Merci beaucoup, Alain. Je sais que tu as faim, tu vas aller manger.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et encore une fois, tiens-nous au courant s'il y a d'autres développements. Fais-tu d'autres choses ou tu reviens demain, style, là?
Non, c'est fini ici. Là. Ben là, je vais aller échantillonner quelques microbrasseries, mais c'est vraiment une autre histoire.
Ça marche, Alain. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Hey, au plaisir.
Salut.
Ben, Alain.
Mesdames, messieurs, c'était Alain McKenna qui était en direct de sa chambre d'hôtel du côté de San Francisco. Chic type. Merci, Alain. Attention à toi. Bonne soirée. On va mettre ça off ici. Bang, end meeting. Bye-bye. C'est fini. Et voilà. Yann, donc comme ça, là, tu vas rester avec ton 5?
Ben, moi, il fonctionne. Je sais pas si... Encore une fois, tu sais... Chacun nos passions, ouais, là, on va s'entendre. Là. Je veux dire, moi, mon téléphone cellulaire,
c'est pour appeler.
Ouais. C'est pour jouer à certains petits jeux pour passer le temps. Là. Jelly Splash, et ainsi de suite. T'sais, c'est le fun, je prends des photos avec. Je navigue pour mon courriel. Ouais. Comme, je me souviens pas la dernière fois que j'ai utilisé mon ordinateur pour aller sur Facebook.
Okay.
Fait que c'est tout le temps mon téléphone. Parce que déjà là, tu le sais, je ne suis pas un Facebooker là, par excellence. Mais dans un sens, je me dis, pourquoi je dépenserais cet argent-là aux 2 ans? À un moment donné, mon budget, je le mets sur d'autres choses. Je le mets sur des jeux, je le mets sur des consoles. C'est un choix.
Parlant de jeux, les gens hier voulaient avoir ton opinion, mais malheureusement, tu ne pouvais pas être parmi nous. Tu avais d'autres choses à faire. Fallait que tu te laves les cheveux.
Ouais.
tu as joué à Metal Gear beaucoup.
Oui, beaucoup. Il est sorti quand?
Il est sorti quand? Le temps arrêté.
Il est sorti
hein?
Le premier. Hein?
Oui.
OK, c'est un peu gênant de dire combien d'heures j'ai dessus.
Combien tu as d'heures à peu près, sérieux?
Ah, je sais pas, mais honnêtement, je dois avoir plus que 25 heures dessus en une semaine.
T'estimes à combien d'heures de jeu tu penses, toi, le jeu? 50?
40? Je pense que c'est difficile, honnêtement, à cibler. Puis je vais te dire pourquoi. C'est que, un, t'as les missions principales, qui est les main missions. T'as les missions secondaires qui se développent que tu peux refaire. Mais tu peux refaire les missions principales plusieurs fois. T'sais, c'est pas juste pour avoir ce qu'on appelle des S-rankings, parce que les Japonais sont très forts sur le... D, C, B, A, puis S. S qui est comme genre la meilleure note super. Que tu peux avoir. Ouais, là. Ouais. Je sais pas si c'est pour super. Ça a peut-être une autre signification. Peut-être que quelqu'un sur Twitch va me le donner. Je suis pas mal sûr.
Sushi.
Mais il y a différents objectifs que tu le sais pas. Mettons que ta mission, j'ai un exemple, ils te disent c'est la troisième mission. C'est concernant que c'est assez rapide. Va assassiner tel commandant.
Ouais.
Mais là, moi, si je décide de le capturer et de l'amener dans ma base, mais ça, c'était comme une option.
Okay.
C'est comme une mission secondaire que je pouvais faire, qui était comme un objectif. Mettons que je n'avais 6, j'ai seulement, éliminer le commandant.
Okay.
Les autres, c'est des points d'interrogation. Tu le sais seulement un coup que tu as terminé la mission. Et dans la même mission, tu peux avoir, genre, capturer le tank ou détruire le tank. Mais dans la troisième mission, mon Fulton device, il n'est pas assez fort pour dire je vais aller hijacker un tank. Ça ne fonctionne pas. C'est qu'il faut que tu reviennes pour faire certaines missions. C'est que, ça se rajoute aussi un peu à la jouabilité. Et à partir de la 22e ou 21e mission, le mode en ligne débloque.
OK.
Puis,
ça t'attire-tu, ce mode en ligne-là?
Moi, je te dis, j'avais pas vraiment l'intention de jouer. Je veux pas mettre d'argent. C'est que déjà là, je sais que je serais pas compétitif. J'ai fait quelques missions en ligne. C'est le fun.
C'est quoi? Tu sais,
qu'est-ce qui arrive, c'est que... Dans Metal Gear, faut développer votre base. Puis là, on a recherche et développement, genre command center, médical, intelligence et renseignement. Plus, c'est Intel en anglais, mais ça doit être des plateformes de renseignement. Mm-hmm. À un moment donné, tu plafonnes à combien de personnel tu peux avoir qui s'occupe de tes plateformes.
Okay.
Un coup que tu deviens en ligne, ça te permet de développer des plateformes supplémentaires pour avoir plus de personnel. Je vous conseille de vous brancher en ligne pour faire ça. Comme ça, votre niveau de recherche va monter plus vite.
Mais tu te bats en ligne, c'est quoi?
Mais c'est ça. C'est qu'en ligne, ce qui arrive, c'est qu'on envahit les plateformes des autres ennemis.
OK.
Mais eux autres, c'est eux autres qui décident comment ils équipent leur équipage, leur garde de sécurité. Ouais. C'est eux autres qui peuvent mettre des mines, ils peuvent mettre des systèmes, des drones avec des caméras, et tout ce genre de choses pour défendre leur plateforme.
Que bien sûr, tu peux acheter, j'imagine.
C'est ça. C'est que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a deux choses. Le but est toujours le même. Tu dois te rendre au core de la plateforme. Okay. Et comme genre une salle de contrôle.
Okay.
Si tu te rends sans te faire déceler, ce qui arrive, c'est que tu te fais voler du personnel.
OK.
Fait que là, le personnel le plus élevé, probablement, que tu touches ta plateforme, qui est un peu plate pour quand le monde veut juste jouer pour le fun. Sauf si tu te fais pas pogner, ouais, la personne ne sait pas c'est qui l'a attaqué. C'est qu'il ne peut pas se revenger. Si tu te fais pogner ou si tu te fais voir, quand je vais me brancher, ça va me dire genre, Denis a attaqué Yann et est parti avec 5 personnels. Okay. C'est que là, j'ai le choix revanche. Et là, je peux aller directement à ta plateforme et te combattre. Moi, présentement, je suis 29 millions. Sur la PS4, je suis genre 29 600 quelque chose,
okay,
en ligne. Entre moi et le numéro 1, il doit avoir à peu près comme 2 millions de points de différence. C'est que probablement que le gars, c'est encore une fois, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté, mm-hmm, les points multijoueurs.
Ou c'est quelqu'un qui travaille développer, là.
Ou quelqu'un, genre, ouais, on s'entend, là, qui joue. Ouais. Et c'est la raison pourquoi je trouve que le mode en ligne n'est pas équilibré. C'est pas comme un multijoueur, genre, okay, que tu joues à Battlefield,
non,
où tout le monde a le même équipement ou presque, ou quelqu'un, toi, tu vas avoir un lance-roquette parce que tu as joué plus d'heures que moi,
mais
tu vas quand même mourir, je te tire une balle dans la tête.
Ouais.
Je veux dire, c'est quand même équilibré pour ça. Dans Metal Gear, là-dessus, ça ne l'est pas, parce que lui, s'il développe sa plateforme au max, quand je vais l'envahir, je serais pas capable d'avancer, il va y avoir trop de monde, trop de systèmes de sécurité. Mais tu peux voir deux choses que j'aimerais préciser. C'est que tu peux voir le niveau de défense de sa plateforme avant de décider de l'attaquer.
Mm-hmm.
Et si t'es en ligne, si t'es en train de jouer pendant que tu te fais attaquer, t'as l'option d'aller défendre personnellement ta plateforme.
Okay.
Et là, t'as deux snakes, deux big boss qui se courent après. C'est que ça, c'est cool un peu pour ça.
Mais toi, hier, j'en ai parlé un petit peu avec Laurent Lassalle, qui me disait que pour lui, c'est un bon jeu, mais c'est pas nécessairement le meilleur Metal Gear. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ça dépend. Ça dépend ce qu'on recherche quand on joue à un Metal Gear, la série. Moi, j'ai joué au premier Nintendo dans le temps. T'sais, si on regarde le premier Nintendo, puis là, on skip celui-là à Metal Gear Solid sur PlayStation, c'est deux jeux complètement différents.
Il y a une évolution.
Il y a une évolution. Mais ça reste que Metal Gear, ça a toujours été du tactical espionnage.
Mm-hmm.
Donc, ça a toujours été fait pour jouer en mode furtif. C'est sûr que tu peux rentrer dans une base avec un gun, puis tirer, puis ainsi de suite. Mais depuis qu'ils ont fini Snake Eater, mm-hmm, après ça, qu'ils ont été à... Il y a eu Portable Ops, mais mettons qu'on y va avec Peace Walker.
Mm-hmm.
Le concept de gérer une base, le concept de gérer une armée sans nation, une armée privée, ça existe depuis Peace Walker, qui date de facilement 4-5 ans.
Mm-hmm.
L'histoire de Solid Snake, qui a fini avec Guns of the Patriot, c'était quand même du espionnage tactique, mais c'était restreint. T'sais, on avait quand même un choix de mobilité, mais notre niveau vraiment de se promener était quand même assez restreint comparé à Phantom Pain. Je pense que c'est ça peut-être que les gens ont de la misère à comparer, c'est que Phantom Pain, c'est un sandbox game dans l'univers de Metal Gear.
C'est un carré de sable où
tu t'amuses.
Un carré de
sable, c'est ça, tu fais ce que tu veux.
Dans l'ordre que tu veux.
Tu peux te promener, genre, puis faire l'Afghanistan à cheval au complet.
Tu peux
le faire à genoux, si tu veux. Tu peux le faire à pied. Tu peux le faire comme tu veux. C'est là. Et je trouve que... Puis l'impact, elle reste. Puis c'est ça qui est le fun. Dans certaines missions, là, tu détruis le radar antiaérien. Dans 5 missions, tu as une mission là, le radar, il est déjà détruit. Puis comme ça, tu peux amener ton hélicoptère
plus
tout
proche.
De suite là, plus proche, puis ta mission se rend plus facile. C'est ce que tu fais un impact dans le monde dans lequel tu joues. Et ça, je trouve que pour moi, ça a beaucoup d'essence à ce que j'appelle la série Metal Gear. Oui, c'est un beau Metal Gear. Moi, je trouve que c'est le meilleur parce que je trouve qu'on a les points forts de tous les jeux précédents puis on les retrouve dans celui-là. Pour moi, on ne commencera pas un débat là-dessus, mais
non.
C'est un vrai Metal Gear parce que c'est l'évolution de Metal Gear.
Ça sent le débat au jeu prochain Zoufest.
Ben, pas de trouble avec ça parce que faut pas oublier que si je ferme mes yeux et je pense à Metal Gear Solid, oui, c'était restreint. J'étais comme dans une petite une base en Alaska.
Ouais.
Il y a des murs, des portes, on se cachait.
Ouais.
C'était limité. Oh, j'avais pas le code. Tu me parlais de personnages secondaires. Je veux dire, oui, il y a quelques personnages secondaires, mais le but, ça a toujours été l'histoire de Big Boss. Comme Metal Gear, c'est l'histoire de Solid Snake.
Ouais.
Je veux dire, les personnages secondaires dans le premier Metal Gear Solid, là, tu leur parlais au téléphone. Là, je veux dire, tu voyais leur image, c'est tout.
Mm-hmm.
Je veux dire, Raiden... On l'aime ou on l'aime pas. Je veux dire, moi, j'ai pas trouvé son histoire intéressante. Mm. Mais tu sais, je veux dire, les cutscenes sont là.
Oui, mais il y en a-t-il assez des cinématiques pour toi? Il y en a-t-il assez pour
mais
ça?
Oui, il y en a assez parce que je trouvais que dans le quatrième, il y en avait trop.
Ouais,
il y en avait trop. Moi, c'est pas un film. Je veux pas regarder un film Metal Gear.
Je veux jouer
à Metal Gear.
C'est ça.
Puis avec Metal Gear Rising, puis avec Raiden, j'avais l'impression que c'était comme plus du Quick Time Events.
Ouais.
Celui-là, tu sais, il est plus fluide.
T'as-tu. OK. Les points négatifs de ce jeu-là, selon toi, il y en a-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, que tu aurais aimé avoir?
Il y a deux choses qui me dérangent un peu.
Ouais.
Quand on fait des missions, les checkpoints sont cool, mais des fois, elles sont excessivement mal faites. Je vais donner un exemple. Il y a une mission, il fallait que j'aille capturer un truck, une van.
Ouais.
Et quand tu arrives à cette van-là, il y a comme le boss qui débarque.
Mm-hmm.
Bon, mais la façon que c'était fait, c'est qu'il me faisait commencer ma mission à côté de mon Jeep, à 5 pieds d'un tank.
Oui, OK.
À chaque fois, mon checkpoint, il était là.
Ouais. C'était mal pris, là.
Mais là, c'est parce que tu veux que je fasse quoi, là? Je veux dire, j'ai le temps, genre, juste le temps de switcher à mon lance-roquette.
T'es mort.
Je veux dire, faut que je cours, mais si je cours, le truck continue. Eux autres vont détruire mon Jeep. Là, je me ramasse à pied avec deux tanks, un APC, un Jeep. Tu sais, ça marche plus, là. C'est que ça, c'est les checkpoints, je trouve que sont un peu... En tout cas, je trouve qu'ils sont mal faits.
C'est douteux un peu.
Ils devraient avoir des points spécifiques. Okay. Tu sais, genre, OK, t'es mort là, on recommence là, puis on va te donner une certaine distance, soit de l'ennemi, tu sais, le plus proche.
Comme ça, tu peux planifier ta stratégie.
C'est ça. Pas être invisible ou être invincible pendant 5 secondes. On enlève le but de Metal Gear pour ça. Mais au moins, donner un certain point. OK, j'étais peut-être pas là quand je suis mort, mais on va te reculer mettons, 500 pieds, 500 mètres, puis recommence là.
Ça, c'est un des points que t'as pas aimé.
Ça, c'est un des points que j'ai pas aimé. Le deuxième, je trouve que pour les personnes qui commencent à jouer à Metal Gear, il y a beaucoup de micro-gestion pour ceux qui aiment pas ça. Moi, j'adore ça, vous le savez. Mais pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est difficile à avancer dans le jeu parce que si on ne s'occupe pas de développer nos armes et à gérer notre base. Si vous ne voulez pas gérer votre base, vous avancerez nulle part.
Mais ça se fait quand même assez facilement. Tu as juste à y aller de façon automatique.
Automatique, mais il faut que tu choisisses. Tu peux pas. Tu n'as pas assez d'argent pour dire je vais tout développer d'une shot.
Non.
Il faut que tu cibles exactement un peu comment tu veux jouer. Ce qui est cool, c'est que les ennemis s'ajustent à la façon. Tu sais, comme moi, j'embarre tout le monde, je fais des headshots.
Ben moi aussi.
Maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à rentrer dans une mission, puis ils ont tous des casques.
Les maudits casques, quand tu tires dessus, ping!
Mais c'est le genre de jeu qui te fait vivre des expériences comme tu n'as aucune idée. Je veux dire, là, maintenant, moi, j'ai Quiet, qui est un sniper, qui parle pas. Mm-hmm. Et il y avait quelqu'un qui avait un casque. J'ai dit à Quiet, tire. Elle a tiré le casque, il a revolé, j'ai snipé, bang, puis je l'ai eu à deux. Tu sais, c'est des styles de jeu qui donnent des combinaisons incroyables que vous pouvez faire selon votre style de jeu.
Puis selon notre imagination aussi. Là, parce que
là, moi, j'ai un water gun maintenant. Je veux dire, quoi qu'il sert, le water gun? Je vais l'amener pour le fun.
Un pistolet à eau.
Quand je tire proche d'un garde, ça fait pas une alarme. Il va juste voir c'est quoi. Je peux éteindre les feux avec mon fusil à l'eau.
Okay.
J'ai recherché mon fusil à l'eau, mais j'ai essayé. Je tire mon fusil à l'eau sur des appareils électroniques. Pas besoin d'exploser. Là. J'attends.
C'est pas pire. L'équivalent des flèches dans Thief, les flèches d'eau.
Mais il faut y penser à ça. Moi, j'ai juste expérimenté avec ça dans une base, pas pendant une mission pour le fun. C'est des choses comme ça qui est vraiment cool à jouer puis à découvrir ce qu'on peut faire avec les appareils qu'on nous donne. T'sais, je vais probablement finir le jeu puis j'aurais pas choisi un shotgun une fois. C'est pas mon style de jeu.
Non, moi, je vais avec le petit pistolet puis avec le sniper. Quand c'est vraiment je suis dans la chenoute, là, puis ils sont trop. Mais,
moi, j'adore tout le monde.
Les vaches, toutes.
Oh, ouais, les animaux.
Il paraît que t'as un zoo sur tes bases, toi.
Ouais, je suis rendu avec un zoo, là.
Qu'est-ce que tu peux faire avec les rats? Moi, j'ai pogné à peu près une dizaine de rats.
Je sais pas. J'ai pas été voir les rats encore. J'ai pogné un ours.
Moi, j'ai mis une guillicage. Je me suis ramassé avec des rats.
Bon. Ouais, c'est des gerbils.
Des gerbils, oui. Gerboises, en fait.
Ouais,
c'est ça, exactement.
J'ai pogné des serpents.
Donc, t'as aimé ça. Ta note, c'est quoi, toi?
Ah, moi, c'est un gros 9.5-10. C'est un des jeux les plus complets que j'ai joué de ma vie. Tellement que je faisais des blagues avec Marie Bergeron sur Facebook quand on s'écrivait. Je disais, cette année, j'ai pas joué encore à Fallout 4, mais j'ai de la misère. Tu sais, mon top 3 cette année, là, je vais avoir de la misère là, avec Bloodborne, ça. Ça faisait partie d'une demi-nouvelle.
Oui, juste ça. Je veux enchaîner avec ça parce que tu parlais de Quiet il y a un instant. Ça ferait un beau lien.
Quiet, joli, ça fait très beau loin.
Elle ressemble à Jamie Lee Curtis quand elle était jeune un petit peu, je
l'actrice
trouve.
Est disponible. L'actrice a fait beaucoup, elle a tweeté beaucoup, celle qui portait que Quiet est basé dessus.
Ouais.
C'est Fallout. C'est Quiet.
Ouais. Puis, t'en as un autre Quiet. Avant de parler de ça, j'aimerais ça juste que tu me parles un petit peu de. T'avais une mise en garde à faire pour les gens.
Oui, la mise en garde, c'est que si vous jouez à Metal Gear, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop rendu loin. Moi, je suis rendu, je pense, à mission 22, 23 parce que je fais plein de missions secondaires et j'aime ça explorer. Parce que là, on a des bodies. On peut prendre notre cheval, on a un chien, on a comme un genre de walker robot, puis on a Quiet qui ont chacun des habiletés différentes pendant l'émission.
Mm-hmm.
Si vous amenez Quiet, c'est marqué au début du jeu, mais juste en cas qu'il y en a qui font next, puis il lit pas. Là.
Ouais.
C'est que c'est un avertissement, une mise en garde, Radio Talbot. Si vous amenez Quiet dans la mission 29 et 42 avec vous comme copain, comme ami, comme buddy, il y a des fortes chances qu'ils vont avoir un bug de sauvegarde dans votre partie et vous allez être obligé de recommencer.
Hashtag.
C'est que, s'il vous plaît, pour la mission 29 et 42, ne prenez pas Quiet comme body et ou faites-les pas tout de suite en attendant la mise à jour si vous voulez absolument finir le jeu avec Quiet. Là.
Ouais. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça au sérieux, ces jeux-là, qui vont prendre le temps de faire du cosplay, de se fabriquer des costumes. T'as déniché un beau spécimen de justement.
Ouais, je voulais montrer ça parce que quand Quiet est sorti la première fois avant qu'il nous explique pourquoi être en bikini et ainsi de suite.
Mais pourquoi être en bikini? Tout le monde est blindé.
Mais ça, je veux pas le dire. Ça fait partie dans le jeu, il te l'explique. Okay. C'est pas réaliste, mais c'est pseudo-crédible dans l'univers du jeu. Mais on s'entend que toi et moi.
Pas de spoiler.
Mais tout le monde disait c'est sexiste, c'est une sniper dans l'armée. Pourquoi elle se promène avec genre juste un top de bikini puis un G-string, ça n'a pas de bon sens, puis ainsi de suite. Puis c'est vrai que des fois, on se dit c'est presque une joke, là, ça n'a aucune crédibilité. Mais c'est toujours le fun de voir du monde comme ça qui s'applique autant pour montrer qu'il n'y a pas de sexisme dans l'industrie du jeu vidéo et qu'un top de bikini, ça fait autant aux filles qu'aux gars. Il manque juste ces bonnes nylons avec des trous dedans.
Je pense qu'ils sont neufs. L'émission n'a pas encore commencé. Et t'as pris ça sur Facebook?
J'ai pris ça, j'ai pris ça sur Google. J'ai marqué Quiet, puis je voulais une belle photo de Quiet pour le montrer. Puis lui, c'est un des premiers qui a popé. Il faut que je le mette à Radio Talbot, c'est bien trop cool. Je trouvais ça trop hot.
T'as pas son nom, hein?
Non, j'ai pas son nom, malheureusement.
C'est une bonne affaire.
C'est comme une promo pour le gars. Okay. Je pense que c'est sa photo Tinder.
Parle-moi un peu de Fallout 4. Là. On va être déchiré entre celui-là et Metal Gear, parce que ça promet énormément.
Si ça continue le même, là, j'aurais de la misère comme le jeu qui va avoir le prix plus de montant cette année. Mm-hmm. Incluant Bloodborne. Fallout 4, écoute, c'est un jeu qui sort dans les années 2015-2016. C'est que, surprise, surprise, il va avoir un Season Pass.
Ben oui.
C'est $30 US. Okay. On nous dit pas encore exactement combien ça va coûter. Pas combien ça va coûter, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur. Bon, on nous promet que c'est seulement du contenu Fallout et que tous les fans vont être contents.
Bon.
Écoutez, Bethesda, je vous aime. Vous allez avoir mon argent avec Fallout 4, c'est sûr. Mais moi, quand on commence à nous annoncer des season pass à 30$ sans nous dire ce qu'il y a dedans, encore une fois, ça vient un peu comme les précommandes. Vous n'avez aucune raison d'acheter ça tout de suite. Je vous le dis tout de suite.
Attendez de voir ce que ça fait.
Attendez de voir qu'est-ce qu'il y a. Attendez de voir.
Mais là, ils t'offrent-tu un deal parce que t'es
non,
un
pas
early,
de deal encore.
Early buyer?
Ça fait juste te dire, préparez votre argent parce qu'on va vouloir votre 30$. Ça ressemble pas mal à ça plus que d'autres.
Mais on les aime quelque part, Bethesda. On leur fait confiance.
Mais c'est ça, parce que le monde va dire, « Ah, mais j'ai trippé sur Fallout Shelter. Ouais. J'aime,
ils
j'ai
ils ont donné
les,
ça.
Ils ont donné ça, ils ont fait ci.
Ouais. »
Ça fait que, tu sais, c'est comme je me dis, gars, attendez quand même. Moi, mon 30$, je vais peut-être l'investir sur quelque chose d'autre. Attendez, même si c'est Bethesda.
Là, t'as un gars qui a un sniper. C'est-tu pour cette nouvelle-là aussi?
Quel gars qui a un sniper? Montre-moi donc ça.
Attends un peu, je vais te le montrer. Schlein!
Ouais, c'est ça, c'était pour Fallout. Check ça.
Ah, il est beau.
Ça, c'est... Moi, je préfère le sniper de Quiet. Là,
mais... Ah oui. Ben, ça, c'est un méchant sniper pareil. Là.
Oh, mais ça, c'est homemade. Check, il y a du duct tape là-dessus.
Duct tape, regarde
check
ça. C'est
ça
beau.
Là.
Des fils électriques.
Ouais, si ça va être un des personnages dans Fallout 4, je pense qu'il est un shérif d'un outpost ou quelque chose.
Intéressant.
Je l'ai dans mon Fallout Shelter, ce gars-là.
Hey, en parlant de ça, t'as-tu reçu ton Pip-Boy?
Mais non, ça sort avec le jeu.
Mais c'est bien.
J'ai hâte. Mais là, j'aimerais ça que l'argent... Moi, je l'ai commandé aux États-Unis. Hein.
Moi aussi.
C'est que j'aimerais ça que l'argent canadien remonte un peu. Là. Sinon, c'est un Collector's Edition qui va faire assez
cher. En fait, non, moi, c'est pas vrai. J'ai commandé par Amazon.
Ouais, moi avec. Mais c'est Amazon.com. C'est que c'est US.
C'est bien trop vrai.
Hein?
Mais nous, c'est un cadeau que j'ai eu de la compagnie. On va le laisser au montage.
Oui, les enfants, pourquoi on mange pas cette semaine? Parce que papa, il y a un Pip-Boy sur le bras.
Regarde, là, tes taux de radiation sont trop élevés. Va jouer dehors un peu. C'est ça. Là, j'ai pas pensé à ça.
Ouais, c'est US.
Tu veux-tu me parler de Battle Chaser, l'espèce de Kickstarter?
Eh oui, moi, là, je vais vous dire, j'ai trippé dans les années fin 90. Je trouvais sur Joe Mandura, qui était il dessinait pour les X-Men dans le temps.
Mm-hmm.
C'était vraiment un gars... En tout cas, il a du talent à aller voir. Il a travaillé avec Virgil pour Darksiders 1 puis 2.
Ouais.
Puis lui, à un moment donné, il est parti de Marvel puis il a dit, je veux faire une bande dessinée sur un monde médiéval. T'sais, on touche pas beaucoup à ça dans les comics. Là, maintenant, il y en a partout, c'est sûr. Puis moi, étant un fan de Dungeons & Dragons aussi, en partant des comics, je me suis dit, hey, je vais triper là-dessus. Et comme de fait, j'ai vraiment trippé sur la bande dessinée. Mais il y a eu genre seulement, je pense, 10... c'est quoi en français? 10
numéros.
10 numéros ou 11, je suis pas entièrement sûr. J'ai tout à la maison, mais en tout cas, c'est que l'histoire, elle a comme fini sur un genre de cliffhanger. On sait pas ce qui s'est passé. J'étais un peu déçu, mais ça qui arrive quand tu commences avec des bandes dessinées, que t'sais, pas le gros... Là, lui, s'est associé avec les anciennes personnes qui travaillaient chez Virgil.
Okay.
Et ils ont parti un Kickstarter sur un JRPG basé sur l'univers de Battle Chasers. quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oublie ça, faut que je participe, c'est sûr. » Et là, il y a déjà, je pense, et ça a commencé hier, et il y a déjà son 500 000.
T'es-tu sérieux?
Ouais, déjà, c'est que... Parce que lui, c'est un gros nom quand même dans l'industrie de la bande dessinée. Puis les gars de Darksiders aussi, je veux dire, c'est des bons développeurs. J'ai rien à dire contre la série Darksiders. Ça a livré la marchandise qu'il promettait de livrer. Là, on s'attendait pas à un jeu...
Bon, pour ceux qui connaissent pas le genre, c'est-tu du tour par tour?
Ça, du JRPG, c'est exactement ce que t'aimes.
C'est ça.
Je te frappe à mon tour et tu manges 12 points de dégâts.
Plus 2,
moins
4, plus 6.
Et la personne, je te frappe à mon tour et j'esquive. Ouais. C'est exactement ça. Je pense pas que c'est sur toi, mais ça va sortir sur PC et console. Et là, ce qui est cool dans ce Kickstarter-là, c'est qu'un coup qu'on décide de participer, c'est sûr qu'on a les bonus qui sont rattachés au jeu, mais en même temps, c'est toi qui vas décider sur quelle console tu le veux.
OK.
Fait que, tu sais, t'es pas obligé de choisir au début, tu peux choisir seulement quand le jeu va sortir. C'est que ça, je trouve ça super cool.
Puis, le modèle Kickstarter qu'on a tenté d'implémenter avec la précommande de DeusEx, je veux qu'on en parle. Je veux inviter justement les gens de
Eidos.
Eidos Montréal à venir faire un tour ici. Ça va se faire. Je vais appeler les boss demain, puis on va en parler davantage. Mais si on revient à ça, on va aller faire un tour sur leur Kickstarter, juste voir combien ils sont rendus. Ils sont rendus à 429 000.
Ah, toi, ils ne l'ont pas encore, 420, sur 500.
Oui, écoute, sont presque
mais ça
rendus,
a commencé il y a une journée.
Et il reste 30 jours. Regarde,
c'est ça. C'est genre, sûr qu'ils vont l'avoir.
7155 contributeurs.
Puis, si tu regardes, il reste encore des early. Comme moi, ça m'a coûté 27 $ pour le jeu au complet.
Ah, tu contribues?
En promo, okay. Ouais, tu regardes.
Là. Donc, regarde ça ici, il y a du stock. Bon, 5525 000. Écoute, ils vont l'avoir facilement,
oh,
ça, c'est sûr.
J'ai bien hâte.
Intéressant. Pour plus de détails, allez faire un tour sur Kickstarter, Battle Chasers avec un S.
Night War. C'est que déjà là, tu vois, moi, je suis un fan de JRPG. C'est pourquoi pas.
Intéressant.
Oui, bien hâte de jouer à ça.
J'ai hâte de voir si ça va. J'ai hâte de voir combien ils vont atteindre avec ça. Ça me surprend.
Combien qu'il va vendre en magasin ou ben, c'est sûr que ça va être une distribution digitale. On s'entend. Là, c'est un JRPG. Ouais. C'est un petit studio. Je pense qu'ils sont 12 à travailler sur le projet.
Okay, quand
mais eux autres, ils pensent le livrer en décembre 2016. C'est qu'ils ont comme un an pour le livrer.
Quand même.
Est-ce qu'il faut quand tu participes à plusieurs Kickstarter, t'as à peu près un jeu qui sort aux 6 mois.
C'est cool. Moi, c'est toujours l'espèce de service après-vente, des fois qu'on a de la misère, là, mais j'ai hâte de voir. Quand c'est des gros noms comme ça,
Tu y allais avec les gars qui. Tu sais, comme moi, j'ai acheté Wasteland 2. J'ai pas eu de problème. Là, j'étais dans le bêta, ça fonctionnait pas, j'ai envoyé un courriel, le lendemain, tout fonctionnait. Fait que, ils mettent quand même du monde. En tout cas,
qualifié.
Ouais.
Ben, des bugs,
dépendant le monde qui ont participé. Ouais. Il y a juste leur groupe aussi en considération pour ça. Je veux dire, comme Exploding Kittens, là, que je vais venir faire la démonstration un moment donné. Je vais l'amener. Ouais, mais il y a Myriam qui veut jouer. C'est qu'à un moment donné, on va faire un board game. Ça va être un jeudi soir. Moi, Myriam, puis on va faire un board game ici, un peu comme on faisait avec Lynn. Eux autres, là, je veux dire, ils pensaient pas que c'était pour exploser comme ça. Mais ils ont livré la marchandise à battre comme ils avaient promis, puis ça a bien fonctionné.
Tant mieux. Ça, c'est le fun quand ça fonctionne de même. Il y en a d'autres, des histoires d'horreur. Là, j'ai fait une erreur cette semaine. J'ai joué à Metal Gear, puis tout de suite après, j'ai joué à Mad Max. Un jeu à 80 millions, puis un jeu avec des budgets raisonnables, disons. Et ça paraît en tabarnouche.
Ça
paraît parce que le jeu est tellement peaufiné. Metal Gear, c'est shiny, c'est propre, il n'y a pas de bugs. Les petites niaiseries,
la pluie.
Exactement, les tempêtes de sable avec la crasse dans l'écran, puis tous les petits détails, on a fignolé, on a pris le temps. 80 millions plus tard, ça sort. Là, tu joues à Mad Max, tu respires en descendant dans un
escalier. De la misère à sauter une roche. Moi, j'ai pas joué encore. En démo au Comic-Con, mais j'ai pas loué ou acheté le jeu.
On va y jouer, on va te le montrer. Mais ça fait pas tout ça nécessairement un mauvais jeu, sauf que c'est comme
pas la même chose.
En fait, c'est deux autos. Une, c'est une voiture d'extrême luxe, puis l'autre, c'est une voiture normale. Tu comprends-tu?
Oh, ouais, c'est ça.
Mais c'est deux chars pareils. Tu vas aller à la même place, tu peux t'amuser.
Qui était le même prix.
Oui.
Tu avais le choix. C'était le même prix au magasin.
C'est ça que je trouve. C'est pas égal. Tu payes 70$ pour les deux jeux pareils.
Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu t'attends. Puis on donne. Puis c'est fun qu'on fait un lien avec Kickstarter avec ça. Si je donne 27$ à Battle Chasers Nightfall pour Night War, je sais pas pourquoi j'ai Nightfall dans la tête. Pour un JRPG.
Tu t'attends à un jeu de
27$. Je m'attends à un jeu de 27$ JRPG, distribution digitale Kickstarter. Si c'est mieux, comme exemple, c'est Pillar of Eternity, qui était presque aussi bon que Original Sin, Divinity, tant mieux. Je suis surpris et je suis content parce que j'en ai pour mon argent. si je paye 74$ pour Mad Max, je paye 74$ pour Metal Gear Solid 5.
T'as pas le même 74.
Je m'attends à ça. Ouais. Mais c'est sûr que si j'achète, j'achète NHL 2016 puis j'achète Metal Gear, tu peux pas comparer les deux. C'est pas la même chose. J'ai pas la même attente en jouant au, mettons, au hockey puis en jouant à Metal Gear. Comme j'ai pas la même attente en jouant Fallout puis en jouant Bloodborne. Ça change pas que les deux jeux sont bons, mais différents.
Exactement. Mais ceci étant dit, c'est deux mondes ouverts. Comme tu disais tantôt, l'autre, on saute, on grimpe, on glisse dans Metal Gear, on fait pas de problème. Dans Mad Max, des fois, on respire en descendant un escalier entre la roche et le mur. Là, tu dis, bon, mais ceci étant dit, c'est pas un mauvais jeu pour autant. C'est pas un grand classique. On va en faire la critique, on va y jouer plus. Là. Mais j'ai du fun pareil. Je m'amuse.
Mais tant mieux, ça qui est cool.
Mais tu sais, il y a un chien. Comme dans la plupart des jeux qui vont sortir cette année. Il y a une base à améliorer. Oh, surprise! On ramasse des affaires.
C'est des scraps. Et
c'est ça,
suite,
c'est ça. Mais écoutez, ça m'a frappé. En tout cas, j'ai dit, tu vois la différence entre un jeu de budget normal, peut-être 20 millions. C'est quand même de l'argent. Là,
mais oui.
Puis un jeu de 80 millions, tu sais, où on prend le temps.
Mais comme
pour
en parlant de 80 millions, c'est ça que les gars de Witcher, ils ont annoncé aujourd'hui. Witcher 3 a coûté 81 millions à faire.
Tabarnouche, hein? C'est du cash.
C'est du cash en tabarnouche. Là. OK, là, ils sont dans le rouge, ils sont dans le noir.
Ils ont profit, ouais.
Juste, ils ont 62,5 millions de profit juste au premier quart. Mm-hmm. Mais tu sais, le jeu s'est vendu en 6 millions d'exemplaires le premier mois seulement. Là.
Imagine ça. Étais-tu content énorme. D'annoncer ça aux autres? Dire, hey, ouais, notre jeu coûtait 80, mais on s'en fout.
On s'en fout, ça a coûté tant. Mais faut pas oublier que. Il y a des rumeurs qui disent qu'un jeu comme Grand Theft Auto 5 a coûté en haut des 200 millions à produire.
Ouais, ben c'est ça. Ben,
les budgets partent, comme on dit, de 500 000 Kickstarter, puis on peut monter ça jusqu'à 200 millions. Je veux dire, Ubisoft ne donnera jamais le vrai chiffre pour Watch Dogs.
Écoute, c'est dans ces eaux-là aussi.
Mais je veux dire, un jeu à développer un engin comme ils ont fait pour Watch Dogs, ou même si on pense au premier Assassin's Creed, puis aux 6 qui ont suivi... ça doit être dans les... En tout cas, moi, je pense que c'est dans les millions, puis c'est des millions à trois chiffres.
Ben non, écoute, c'est sûr.
C'est pas mal sûr, mais encore une fois, ils nous donneront jamais le vrai chiffre. Mais faut pas oublier que ça dépend du groupe. Witcher a coûté 81 millions à faire, Witcher 3, mais il était 200 ou 250 là-dedans. Là.
C'est pas 2000.
C'est ça, là. C'est pas 4 studios, là. Non, c'est un studio. Mm-hmm. C'est qu'encore une fois, comme tu dis, ça dépend toujours de la qualité, ça dépend ce que tu t'attends. Moi, ça ne m'a pas dérangé d'attendre un an de plus pour avoir le produit final que j'ai entre les mains qui ressemble à Witcher 3. C'est ça, un moment donné, il faut se dire, en tant que consommateur, c'est comme aimer un film et dire « Ah, mais je suis tanné d'attendre pour le prochain Harry Potter. » Ouais, mais c'est quoi? Tu veux qu'il te le sorte direct en vidéo avec des mauvais acteurs? Je veux dire, ça ne change pas que l'industrie, elle cherche, on l'a toujours dit. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est pas parce que ton jeu a coûté 300 millions ou 200 millions ou 100 millions qu'automatiquement, il va être bon.
Moi, mon polonais n'est pas bon, mais ce monsieur-là, il a l'air content. Il a l'air heureux, il présente des chiffres, il présente toutes sortes d'affaires.
C'est sûr.
En tout cas, il a l'air content. Une autre belle licence qui a été, avec cet argent-là puis la petite équipe, on a réussi à offrir quelque chose de bien. Puis du contenu téléchargeable gratuit.
Puis n'oublie pas la lettre venait dans la vidéo. Merci d'avoir dépensé votre argent durement gagné sur notre jeu. Tu sais, c'était plein de choses qu'ils trouvaient que... Tu sais, aux fans, c'était du bonbon, puis on a tout mordu, puis on a tout fait « Wow, son nom est cool ». Mais je veux dire, CD Projekt m'a jamais déçu en tant que studio.
Combien d'heures de jeu t'as mis là-dedans, toi?
The Witcher 3, je l'ai même pas terminé, t'imagines-tu? Puis j'ai facilement un 50-60 heures de mis là-dessus. Là.
J'ai un gars avec qui je chattais un peu plus tard, il a mis 110 heures, lui-là, puis il dit « J'ai presque pas fini ».
Oh, et dans les îles.
En fait, il
ne
voulait pas finir.
Mais c'est ça, moi non plus. Ouais. Ça, c'est un de mes problèmes, là, je l'avoue. J'aime ça finir mes jeux. J'ai fini tous. Mais quand j'arrive vraiment proche de la fin, on dirait que j'ai mis un peu sur le côté.
Ouais, tu veux pas y
parce que j'ai
pas.
Tu sais, comme Shadows of Mordor, j'étais à 98%. Faut que je le finisse. Mais on dirait que je veux pas le finir parce que je me dis toujours dans ma tête, ah, faut que je finisse Shadows of Mordor. Mais encore une fois, moi, je suis comme ça.
Puis c'est comme tous les jeux que tu vas chercher gratuitement aussi, qui s'accumulent pour tes vieux jours dans ta ludothèque.
Surtout dans Steam, là. Il y a une vente, là.
Y a-t-il des belles ventes cette semaine? Parle-nous de ça.
Non,
t'as-tu
ça,
des
j'ai
affaires?
Rien. Je vais être honnête, je recommence à travailler cette semaine. Okay. C'est qu'à part travailler puis un peu jouer à Metal Gear, j'ai pas fait grand-chose. Ben, j'ai nourri mes enfants. Donc.
C'est ça. Il y a quelqu'un qui parle du 500 millions de Destiny. Ça, c'était-tu une rumeur, ça?
Je sais pas si c'est une rumeur. Je pense que ce qui pourrait peut-être frôler le 500 millions de Destiny, c'est qu'ils ont été obligés de recommencer un moment donné.
Ouais, mais c'est de l'argent.
Ils ont scrappé le projet, puis ils ont recommencé. Tu sais, si on regarde ça, je me dis, le Project Titan de Blizzard, combien tu penses qu'ils ont mis comme gouffre d'argent là-dedans pour essayer de trouver un successeur à, à World of Warcraft?
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. C'est que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est des pertes. Ouais. Ils l'absorbent. La compagnie l'absorbe. Mais est-ce que c'est vraiment le 500 millions est rattaché au jeu directement? Moi, je trouve que la plus grosse claque d'en face de Destiny, à part le fait que c'est un MMO, bon, je taquine parce que j'ai encore des amis qui jouent, là, qui ont jouer avec ça, c'est que toutes les voix que Peter Dinklage y avait faites en tant que ton ghost, là, ça a tout été enregistré par un nouvel acteur pour la mise à jour, puis pour le prochain, pour le prochain qui sort là, la semaine prochaine.
On aurait fait une
Je pense que ça ne tentait pas probablement cette journée-là ou cette semaine-là que ça y ait pris à enregistrer ses voix, mais non, il n'y a pas la plus grande émotion.
Il n'était pas très enthousiaste, disons.
En tout cas, il ressemble un peu à dans le premier Resident Evil. « Here, you, Jill, the master of unlocking. » Tu sais, je veux dire, c'était comme, ça ressemblait pas mal à ça.
On parle de ça, Kiefer, dans Metal Gear, ça fait-tu une grosse différence dans ta vie, toi,
Kiefer? J'étais un peu choqué parce que j'aimais bien Ader. J'ai grandi avec lui. C'est lui la voix. Pareil comme pour moi, Batman, c'est Kevin Conroy parce que j'ai grandi avec les Animated Series et tous les films.
Ouais.
Mais je trouve que Big Boss, il parle tellement pas souvent dans ce jeu-là que techniquement, ça me dérange pas que ce soit Kiefer Sutherland qui fait la voix parce que je pense qu'honnêtement, si à date, dans mon 25 heures de jeu, Big Boss a parlé l'équivalent de 10 minutes,
gros max.
C'est gros max, parce que la part du temps, c'est toujours les autres. Puis lui, il répond. Oh, yeah.
Yeah.
Yes, I was wondering.
Yeah, go, horse, go, go.
T'sais, c'est ça.
Yeah,
t'sais, c'est dans un sens, ça dérange pas.
Tigalo, puis il parle à son cheval. Come here, stay here.
Ouais.
Yes, OK.
Mais là, maintenant, moi, le cheval, je l'utilise plus pantoute. J'ai plus besoin.
Non, moi... Tu marches?
Bon, je dois avouer que j'ai un petit penchant pour mon petit chien. Il est bien cool, D-Dog. Puis Quiet est très pratique. Là, j'ai unlocké son sniper rifle. Avec silencieux, mais pour endormir comme moi.
OK.
C'est qu'on fait du double tap. Mettons, il y a deux gars à côté de l'autre. Moi, je prends celui de droite, elle prend celui de gauche.
Puis tu donnes tes ordres comme ça.
Puis je vais donner un truc. Il y a même du monde qui m'a posé des questions. J'ai pas eu le temps vraiment de faire du Twitch. Tout le monde m'envoyait des messages. Je voudrais devoir jouer à ça sur Twitch, ainsi de suite. J'ai juste pas beaucoup le temps parce que c'est le rentrée des classes. Puis je travaille beaucoup. Mais je vais donner un truc. Si vous prenez Quiet puis vous dites pourquoi elle me suit pas, elle reste sur mon point où je suis arrivé avec l'hélicoptère.
Va prendre ta douche.
Vous pouvez aller, quand vous rentrez dans votre menu, à droite, quand vous choisissez vos missions, vous avez une option qui est Body Support ou peut-être support de body, là, d'amis là, en français.
Support allié, peut-être.
Support allié.
Je sais pas moi non plus.
Et vous avez le choix de marquer Scout ou Attaque. Vous prenez Scout et là, ça vous rouvre la carte et vous pouvez l'envoyer.
Puis ça va quelque chose, être averti, même si ça parle pas.
Ça va quelque chose, un peu comme le chien. Elle va comme te le caler puis ça va apparaître sur ton écran comme avec le chien.
Ton iDroid.
Dans mon iDroid.
OK. Mais si jamais vous voyez ce gars-là dans votre jeu, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place.
Non.
Vous n'êtes pas du tout à la bonne place. OK. As-tu d'autres trucs comme ça que tu peux donner facilement aux gens qui nous écoutent, qui sont avides de tes paroles, ô toi, grand gamer?
Oui, capturez tout ce que vous pouvez. Upgradez votre Fulton le plus vite possible. Attachez tout, amenez tout. Puis même si à un moment donné, dans votre base, vous avez genre le waiting room, salle d'attente, puis vous avez 75 gars dans votre salle d'attente, c'est pas grave. À un moment donné, vous allez voir, vous dites « Hey, j'en avais 75, puis là, je suis rendu à zéro. Pourquoi? » Vous allez voir dans le jeu, vous allez voir en développant. Même si les gars, ils ont tous des E-E-E partout, plus tard, débarrassez-vous pas de tout le monde. La seule personne que je vais vous suggérer de vous déplacer, puis c'est de le faire une fois de temps en temps, vous allez voir, certains soldats, ils ont des skills.
Ouais.
Le skills troublemaker, même s'il y en a un qui a le diplomate, qui dit qu'il calme, débarrassez-vous des gars troublemaker. M'emmenez dans le jeu, votre équipe va se rendre à l'infirmerie, il va attaquer d'autres compatriotes. Ça vaut pas la peine. La part du temps, vous allez, même s'il y a un A+, vous allez en trouver un autre à un moment donné. Débarrassez-vous de ces gars-là, les troublemakers, ça vaut pas la peine.
Ça, j'ai fait, moi, dans ma vie. N'a plus.
N'a plus de troublemaker.
N'a plus de troublemaker. Yann, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir, malheureusement.
Déjà?
T'as-tu d'autres nouvelles, rapidement?
Attends, je vais checker ça vite. Regarde ça. Je m'en souviens pas.
Attends, on a fait le tour, moi, de tout ce que tu m'as envoyé.
Un, deux, trois. Ben oui, j'ai fait le tour.
Ah ouais. Arrête pas, t'as une machine.
Les choses qui arrivent.
Puis que toi, c'est Metal Gear. Le prochain que t'attends, c'est quoi?
C'est Fallout.
Entre-temps, t'as pas des petits jeux à nous faire découvrir?
Ben, peut-être, mais faut voir. Faut qu'à un moment donné, je débarque ma tête de Metal Gear. Puis,
c'est dur.
Ben,
hein?
Je vais vous faire découvrir peut-être Dead Until Dawn à un moment donné.
Ça, c'est un message pour moi. OK, je vais te le prêter. Celui-là, j'ai pas fini non plus, pas tout à fait. Mais.
Même que tu te finis, je vais t'en l'emprunter parce que je suis pas sûr que je peux finir ça en une semaine ou quelque chose dans le genre.
Une semaine au travail ou chez vous?
Chez nous.
Ben, longtemps en vacances.
Ben, ouais.
Merci, Yann.
Ça fait plaisir.
C'est tout le temps qu'on a pour ce soir, mesdames, messieurs. Et puis, ben, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Merci, Yann. C'est très, très cool. Merci à Alain McKenna aussi de son reportage en direct de San Francisco. Hey, on a des budgets, c'est carré.
C'est carré. Hein?
Man, on voyage partout.
On l'a envoyé là-bas.
On l'a envoyé là-bas. Il est pris aux douanes. Non, mais ben, sérieux, merci beaucoup Alain McKenna. On peut lire d'ailleurs le résumé de, ses, de son expérience là-bas à la conférence d'Apple sur Canoë. Allez faire un tour. Je rappelle que vous pouvez nous aider en contribuant sur Patreon ou encore en devenant membre de notre canal. Gênez-vous pas, c'est super cool. Et tous les dons sont acceptés parce que Yann, t'es payé ce soir.
Wouhou!
Ah, yeah!
Ah, ouais, tu vois, j'ai échappé mon iPad.
Ah, bah, tu vas pas t'en acheter un autre?
J'ai pas le choix.
Un Max, un gros
non,
iPad.
Non, non, je suis pas encore rendu.
T'es pas rendu là, malheureusement.
Le mien fonctionne encore. Moi, je suis style, ça fonctionne encore.
If it ain't broken, don't buy anything.
Même chose que, tu sais, que la stock dans ton frigidaire, là. Moi, je me dis toujours. In doubt, throw away. Okay. Ça, c'est ma politique. Puis faites-le aussi chez vous dans votre frigidaire. T'es pas sûr, jette.
T'es pas sûr, jette?
T'es pas sûr, jette.
C'est Yann Richards qui dit ça?
C'est Yann Richards qui dit ça.
Un conseil, mesdames, messieurs. Merci, Yann. Attention à vous autres. Et nous, on se retrouve, c'est quoi? C'est demain pour une autre Radio Talbot avec la gang habituelle. Attention à vous autres. Bonne soirée. Hop, un petit noir.
Présenté par les Brasseurs Illimités et la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.